Donc, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les grands, la classe des grands va retravailler le texte de la semaine dernière avec Charles. Et ils assisteront donc au prochain message sur Samuel, de façon à ce que, comme ils sont grands, ils puissent s'associer aussi s'identifier et recevoir de l'histoire de Samuel pour eux-mêmes. Donc ce matin, ils travaillent de leur côté. J'ai fait aussi un questionnaire pour les groupes de maison. Donc vous pourrez retravailler ça dans les groupes à l'occasion, même si c'est avec un petit peu de retard, c'est pas gênant. Je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir en discuter entre vous. Donc je pense que l'histoire de Samuel est tellement longue que bon, je vais pas mobiliser 2 mois. Je vais me contenter de faire la première partie cette année, et l'année prochaine, au mois de la famille, on fera la deuxième partie. Je pense que ça vous tiendra en haleine. Mais voilà. Donc un petit rappel de ce qu'on a dit la semaine dernière. L'histoire de Samuel nous a montré que l'action de Dieu est là dans l'histoire des hommes. On a souligné que l'histoire de Samuel est parfaitement datée, elle est tout à fait historique. On a souligné la qualité de la relation entre Dieu et les hommes. Et on a vu que cette histoire aussi décrit les grands hommes de la Bible comme étant eux aussi en apprentissage. Donc ça nous met à l'aise, hein. Nous aussi, on est en apprentissage. L'histoire de Samuel, on a dit la semaine dernière, commençait mal par la stérilité de Anne. Et on avait dit que, voilà, Dieu aime rendre possible les choses impossibles. On parlait de miracles tout à l'heure en priant, mais Dieu aime rendre possible les choses impossibles. Il aime se glorifier dans notre faiblesse, dans la faiblesse des humains. Il est aussi capable de changer le deuil en allégresse. Vous vous souvenez, on avait insisté là-dessus. C'est un point fort du royaume de Dieu. Changer le deuil en allégresse, les cendres en couronne, on retrouve tous ces textes bibliques. Dieu transforme nos moments difficiles en bénédiction. Et on avait remarqué que si tout allait bien pour Anne, elle aurait jamais eu l'idée de consacrer un de ses enfants à Dieu. Et ça aurait été dommage. Parce que Samuel, c'est celui qui a oint les rois, les premiers rois. C'est celui qui a assuré la transition entre les juges et la royauté. C'est un personnage dans l'histoire d'Israël extrêmement important. Et voilà, Dieu aurait certainement trouvé quelqu'un d'autre. Mais si elle n'avait pas fait cette démarche, si elle n'avait pas eu ce problème de stérilité, bon, elle n'aurait certainement pas fait cette démarche. Ça aurait été dommage. On a parlé aussi des problèmes de comparaison, vous savez, entre Anne et Pénina, les préférences qui détruisent les couples et les familles, les frères et sœurs, les églises, les collègues, les voisins, et qui blessent pour la vie des millions de gens. Et on avait insisté sur le fait de faire attention aux comparaisons, attention aux préférences, attention aux rivalités, et de préférer plutôt la complémentarité. Là où on est différent, eh bien, profitons-en pour se compléter. Toi, tu sais faire ça mieux que moi, alors tu le fais. Moi, je sais faire ça mieux que toi, donc je le fais. Complémentarité, évidemment, au sein des couples, au sein des églises, au sein du travail aussi. Reconnaître les différents dons et différentes qualités. Et en faire un atout au lieu d'en faire une cause de rivalité. On avait parlé aussi des maladresses qu'on peut faire quand on veut aider quelqu'un. On avait dit de faire attention à rester dans la bienveillance et dans la miséricorde. Et pas de faire des comparaisons avec soi-même et juger un petit peu à l'emporte-pièce, mais chercher à encourager surtout à chercher Dieu. Parce que c'est lui le vrai consolateur. On avait noté que les consolateurs humains, ben, ils font ce qu'ils peuvent, mais on n'a pas toujours les mots, on peut être extrêmement maladroit devant des situations difficiles. Donc, cherchons à encourager, mais surtout en dirigeant les gens vers le Seigneur. Il n'y a que lui qui comprend la douleur, il n'y a que lui qui peut vraiment... Parce que même un même événement, un même deuil, par exemple, on va pas réagir pareil l'un de l'autre. Et c'est vraiment en cherchant la consolation de Dieu qu'on va pouvoir vraiment consoler les gens plus qu'avec nos paroles humaines. En plus, après, on a vu que Anne avait énormément changé, mais radicalement. D'ailleurs, les enfants l'avaient très bien rendu sur la vidéo. Anne est complètement transformée après le temps qu'elle a passé avec le Seigneur. Et c'est curieux parce qu'en fait, elle était venue. Chaque pèlerinage, elle était venue offrir ses sacrifices à Silo. Et ça n'avait rien changé. Mais là, qu'est-ce qui a changé? Elle en pouvait plus. Elle est allée déverser son cœur devant le Seigneur. Et ça... Je nous encourage à le faire, parce que parfois on garde un peu les choses pour nous, même quand on est chrétien de longue date. Et voilà, on encaisse. Alors que parfois Dieu nous demande simplement de venir et venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et vraiment, c'est ce qu'elle a fait. Seigneur, j'en peux plus. Et elle souffrait tellement qu'elle arrivait même plus à articuler les mots. Et on voyait seulement ses lèvres qui bougeaient. Et naturellement, le vieil Élie, qui était pas fut-fut quand même, hein, il croit qu'elle est ivre et il l'insulte. Va cuver ton vin ailleurs. Mais ça n'a rien changé. Elle avait eu un contact avec Dieu. Elle avait déversé son cœur au Seigneur. Il y a des choses qu'on peut pas partager nécessairement avec des frères et sœurs, des choses qu'on peut pas nécessairement partager avec nos proches, mais on peut les partager avec Dieu et vraiment vider son cœur. Et on a vu qu'après qu'elle ait vidé son cœur, elle a eu la paix, elle a mangé, l'anorexie c'était fini, elle ne retourne plus sa colère contre elle-même, parce que c'est ça l'anorexie, hein. Son visage change, elle n'est plus la même. Et là après, on peut dire n'importe quoi, le prêtre a pu dire n'importe quoi. On avait insisté justement à propos d'Élie sur le fait de pas juger sur l'apparence. C'est tellement vite fait. L'apparence est bonne, alors waouh, c'est quelqu'un de très bien, je lui fais confiance et on se plante. Et l'inverse aussi. Parfois l'apparence n'est pas géniale. Je me souviens quand j'étais dans un camp en Angleterre. Moi, j'avais 16 ans, mais j'avais des idées très arrêtées. J'ai quand même un peu progressé de ce côté. Et il y avait un pasteur qui venait prêcher. On avait deux messages par jour. Et j'aimais beaucoup les pasteurs qui avaient prêché jusque-là parce qu'ils étaient drôles, ils étaient dynamiques. Ils prêchent encore d'ailleurs, j'étais contente de les retrouver sur Internet. Ils ont un peu vieilli, mais bon, moi pas. Et voilà qu'arrive un vieux monsieur qui a l'air très sévère, très sombre, très... un peu, on aurait dit un peu prétentieux si on n'avait pas fait attention. Oh, j'avais pas envie de l'écouter. Puis vraiment, je l'ai jugé sur l'apparence. C'était un Écossais. Et son message était tellement pour moi. J'avais honte de l'avoir mal jugé. Il a dit des tas de choses que je pensais, et que je pensais mal d'ailleurs. Ouh là là, qu'est-ce que je me suis sentie reprise. Hein, jugée sur l'apparence. Là, j'ai pris une bonne leçon ce jour-là. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Élie? Au lieu de lui dire d'aller cuver son vin, il aurait déjà pu lui poser des questions, on avait dit. Il aurait pu demander à Dieu de lui donner du discernement. Il aurait pu regarder un peu sa famille, poser des questions à son mari qui était là, etc. Il a été vraiment cassant. Va cuver ton vin ailleurs. C'était quand même dur. Hein. Voilà, on en était là dans l'histoire de Samuel. Donc ça, c'est le petit résumé. On va reprendre à partir du verset 20. Donc c'est Samuel, chapitre 1, verset 20. Moi, j'ai la version NBS, mais bon, c'est pas très très différent. Elle est un peu plus précise. Elkana eut des relations avec sa femme Anne et le Seigneur se souvint d'elle. À la fin de l'année, elle était enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car dit-elle, c'est au Seigneur que je l'ai demandé. Alors, ça peut sembler évident, mais l'auteur de ces lignes est très clair. Il ne s'agit pas du même miracle que Jésus. Hein, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. C'était pas le cas pour Samuel. Elkana et Anne ont fait ce qu'il fallait pour avoir un enfant. Alors ça peut vous sembler drôle, ça peut. Moi je me suis dit, mais tiens, ils n'avaient pas besoin de le dire, on aurait pu s'en douter. Mais j'ai un petit peu réfléchi et je me dis combien de fois des gens s'attendent à une intervention de Dieu sans faire ce qu'il faut pour ça. Moi je sais que nos vieux pasteurs, il y a très longtemps, avaient l'habitude de raconter cette histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, c'est ce que racontaient des gens que Monsieur Mme Dupuis ont dû connaître d'ailleurs. Racontaient l'histoire de cette femme qui, pendant la guerre, n'avait plus rien à manger. Et elle a dit, Seigneur, tu as promis de pourvoir à mes besoins. J'ai plus rien à manger. Veuille m'envoyer quelque chose à manger. Et elle prie avec foi. Et évidemment, quelques temps après, peut-être quelques heures, on frappe chez elle. Les voisins arrivent avec un bon bol de soupe, chaude. Ah ben non, elle n'en a pas voulu. Elle attendait que le Seigneur lui apporte. Voilà. Alors oui, comme quoi parfois, bon, nos vieux pasteurs nous racontaient ça pour nous dire, attention, Dieu se sert aussi des gens, et c'est pas forcément notre façon de voir, mais il exauce. Mais quelquefois, il exauce pas forcément. Il exauce de façon très concrète. Hein. Et il faut pas avoir peur aussi d'accepter de passer par des choses très concrètes pour que l'exaucement de Dieu arrive. Et Elkana et Anne ont fait ce qu'il fallait pour avoir un enfant. Et Ça semble peut-être ridicule de le dire comme ça, mais ça peut nous faire réfléchir, nous aussi. Et j'ai réfléchi. Dans ce domaine, alors moi qui travaille avec des enfants depuis longtemps, je pense aux enfants qui prient de tout leur cœur pour réussir à l'école, mais qui travaillent quand ils en ont envie, qui se moquent des profs, qui n'écoutent pas en classe, mais on prie quand même pour réussir. Et même on est jaloux du premier de classe, ça je le vois régulièrement avec mes cinquièmes, cet idiot de lèche-botte qui collectionne les 18 sur 20. Ah ! Et là, combien de fois au cinquième, je leur répète, mais attendez, faut travailler quand même. Et aux ceux qui sont chrétiens, raison de plus, je leur dis, mais vous aimez le Seigneur, faut faire ce qu'il faut. Faut faire ce qu'il faut pour réussir. Bon, peut-être que vous aurez pas des 18 sur 20, mais au moins vous arriverez à la moyenne si vous faites ce qu'il faut avec l'aide du Seigneur. Et c'est la même chose au travail, combien de fois on prie pour une promotion. Et c'est bien, je pense qu'il faut. Mais je crois que ici dans l'église, je sais que vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Mais j'ai connu des gens qui ne faisaient pas ce qu'il fallait au travail. Ils faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Ils se défilaient quand il y avait un coup dur. Et ils prient pour avoir une promotion. Parfois, ils se plaignent d'être persécutés. Parce qu'ils font pas leur boulot. Alors, je sais que parfois, on est persécuté au travail. D'ailleurs, on prie pour Laurence, hein, qui est vraiment persécuté en son travail. Mais le Seigneur est en train d'agir et on continue à prier. Mais parfois, on est persécuté parce qu'on fait pas son boulot. C'est pas le cas de Laurence. Et voilà, on veut une promotion, mais on fait pas ce qu'il faut. Et c'est dommage. C'est dommage parce que les problèmes retombent sur les collègues et on est mal vu et on n'a pas un bon témoignage de chrétien. Donc, acceptons de faire ce qu'il faut pour avoir la bénédiction de Dieu. Faut pas rester dans le miracle absolu. Dieu doit tout faire. Moi aussi, il faut que je fasse ma part. Ça, je crois que Dieu le sait. Et je pense que c'est pour ça que ce petit verset-là est là. Il n'y a pas de miracle absolu. On a notre part à faire. Pour Jésus, c'était différent. On peut remarquer aussi que dans la bénédiction, elle n'a pas oublié sa promesse. Elle n'a pas oublié que c'était une grâce du Seigneur. Et parfois, ça me déçoit. Enfin, moi maintenant, mais autrefois, j'ai souvent vu prier pour des gens. Et puis, quand l'exaucement est là, « Ah bah oui, mais faut dire que quand même, hein, j'ai fait ceci ou cela, ou bien, ah oui, mais quand même, c'est un gamin intelligent. Ah bon, on a prié pour que... » Oui, bien sûr, c'est pas faux, mais si on a prié, ben on remercie le Seigneur. Hein. Il faut pas oublier ça. Ça me fait penser à Françoise Bourgogne, pour ceux qui l'ont connue, qui a vu un cancer. Elle était médecin, stomato exactement, et quand elle a passé sa radio, évidemment, ils ont vu la tumeur cancéreuse. Et elle a prié avec son église, c'était quand elle était encore au point du jour, et elle repasse une deuxième radio avant l'opération. Évidemment, à la deuxième radio, le radiologue ne voit rien, et c'était un type très coléreux, « Ah, mince, c'est pas possible !» Et le chirurgien est encore plus coléreux, et il dit « Mais vous êtes même pas foutu de me faire une radio correcte, refaites-moi cette radio !» Ils l'ont refait deux fois, je crois. Évidemment, il n'y avait rien, elle avait été guérie par le Seigneur. Et le chirurgien, après passer les moments de colère, une fois qu'il avait bien passé sa colère sur le radio, il dit « Ah, c'est la première fois que je vois un miracle. » Donc, il reconnaît la puissance de Dieu. Et 8 jours après, parce que je crois qu'il travaillait dans le même hôpital, 8 jours après, « Oh, bon, ça peut arriver de temps en temps. C'est le hasard. » Voilà. Hein? Et malheureusement, on voit ça parfois. Et gardons-nous de ce genre de choses. Elle dit bien, elle l'appelle Samuel parce que c'est au Seigneur qu'elle l'a demandé. Et elle dit pas, bah voilà, ça peut arriver par hasard, n'est-ce pas? C'est vrai, ça arrive parfois, mais là, c'était vraiment la réponse à la prière. Plus encore, quand vient le moment de monter à Silo pour faire le sacrifice annuel, eh bien, elle ne monte pas. Non pas parce qu'elle ne croit plus en Dieu, mais parce qu'elle explique à son mari, et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, il y a une bonne relation entre les deux. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, je ne pense pas que Pénina était un choix, ça a dû lui être plus ou moins imposé. Le mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille, verset 21, pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel ainsi que son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle avait dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je l'amènerai, afin qu'il paraisse devant le Seigneur et qu'il reste là pour toujours. » Elle tient sa promesse. Elkana, son mari, lui dit, « Fais comme il te plaira. Reste ici, jusqu'à ce que tu le laisses sevrer. Que le Seigneur réalise seulement sa parole. Ainsi, la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Donc, elle explique à son mari qu'elle va le donner à l'Éternel, selon sa promesse, il était visiblement au courant. Et elle est prête à tenir sa promesse, même une fois que l'enfant est là. Parce que c'est facile de faire la promesse quand on n'a pas d'enfant et qu'on est stérile. Mais quand on a enfin un enfant, ça devait être deux fois plus dur que pour quelqu'un qui en a déjà eu 12. Même si je sais que un enfant, c'est toujours un enfant, même si on en a beaucoup. Mais elle se prépare et elle va préparer l'enfant et elle dit, je vais l'entourer au maximum. Et on remarquera qu'elle a l'accord de son mari. Et dans la loi de Moïse, vous savez, quand une femme faisait un vœu, le mari avait le droit d'annuler le vœu le jour où il la prenait. Après, il devait respecter. Mais on voit que son mari a respecté son vœu. Ça devait pas être évident pour lui, parce que rappelez-vous Jacob, quand il a vu partir Benjamin, waouh, le cirque qu'il a fait! Et il avait 12 enfants, c'était le 12e, mais c'était celui de Rachel évidemment, il avait déjà perdu Joseph. Mais comment il était déprimé au bord de la mort. Et il y a des films d'ailleurs qui le rendent très très bien. Et on le voit se jeter de la cendre. Et... bah oui, parce que bon, c'est important un enfant et le voir partir comme ça. Ça aurait pu, mais Elkana a tenu bon. C'était pourtant l'enfant de la femme qu'il aimait, exactement comme Jacob avec Rachel. Et le seul, peut-être, il se disait, ce sera peut-être le seul, mais il accepte. Donc voyez la foi profonde qu'il devait avoir, Elkana, pour accepter ça en disant... Fais comme tu l'as décidé. Il respecte le vœu de sa femme. Donc il y a une très bonne entente entre eux. Et puis, le souci de respecter les promesses qu'on a fait à Dieu. J'imagine c'était un homme extrêmement consacré. Là, ça se sent. Hein. Déjà, il faisait bien ce que la loi avait demandé, etc. Et l'auteur, là, met le doigt sur le contraste entre Elkana, Anne, Samuel et Élie et ses fils. Et vous allez voir, ça ne va faire que s'aggraver. On commence là déjà. Alors on lit versets 24 à 28. « Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. » Sacrifice normal. « Elle l'amena à la maison du Seigneur, à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils immolèrent le taureau, amenèrent le garçon à Élie. Et Anne dit, « Pardon, mon Seigneur, par ta vie, je suis cette femme. » Ça, c'est beau, hein. « Qui se tenait ici avec toi pour prier le Seigneur. » Hein, combien de fois on aime les témoignages de gens qui nous disent, vous savez, la dernière fois qu'on a prié pour ça, ben voilà, ouais, c'était moi, vous rappelez peut-être pas, mais le Seigneur m'a béni. Ah, ça réjouit le cœur, hein. C'était pour ce garçon que je priais, et le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. À mon tour, je le cède à la demande du Seigneur. Il sera demandé pour le Seigneur tous les jours de sa vie, sur quoi elles se prosternèrent là devant le Seigneur. Une foi, un engagement, une promesse tenue, ça me fait réfléchir, hein. Et là, je sens que toutes les mamans s'inquiètent, hein. Si jeune. Ah, là, c'est un peu dur, hein. Comment est-ce qu'elle a pu donner son enfant si jeune? Alors, il y a plusieurs points. D'abord, les femmes allaitaient facilement jusqu'à 3 ans. Ça, c'est reconnu. Et si elle a attendu le prochain voyage annuel à Silo, il est fort probable qu'il arrivait sur les 4 ans. Certains commentateurs disent qu'il avait probablement entre 4 et 5 ans. Bon, mais c'est quand même petit, hein. Tous ceux qui font l'école du dimanche le savent, hein, entre 4 et 5 ans, c'est pas des hommes déjà, hein, quand même. Et il y a quelques points à considérer. Alors, la culture de l'époque. La vie était assez rude et les petits garçons n'étaient pas élevés dans du coton. Rien à voir avec la vie parisienne ou, hein, pas du tout, du tout, du tout. Ils vivaient à la campagne déjà, hein, parce que les villes, c'était plus ou moins la campagne pour nous. Et puis, on les encourageait à se débrouiller tout seuls très tôt. Rappelez-vous que l'espérance de vie était de 40-50 ans. Les autres, c'était des exceptions. On leur donnait très tôt des petits travaux à faire. Aller chercher le bois, des choses comme ça. On le voit d'ailleurs dans la Bible, hein. Très tôt, ils commençaient à aider. Donc, il était déjà quand même bien autonome entre 4 et 5 ans. En plus, Samuel était un exaucement de prière. Donc, c'est un cas un peu particulier. Beaucoup plus encore, je crois que Dieu, on l'a vu, hein, avait un plan pour sa vie. Et vous savez, on dit souvent, je crois pas que ce soit dans la Bible, mais c'est quelque chose qu'on dit souvent, Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire, si Dieu avait appelé cet enfant à le servir, il lui a donné certaines capacités. Sa mère avait certainement un tempérament bien trempé. Sa mère l'a certainement aussi bien préparé. Je pense qu'elle lui a pas dit un matin, voilà, on va à Silo, tu vas rester là-bas. Elle a dû passer du temps à lui dire, à lui redire, à lui expliquer pourquoi, à prier avec lui. Donc, il était prêt. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que s'il n'avait pas été bien préparé, s'il n'avait pas eu un caractère bien trempé, il se serait sauvé. Voilà. Ils se seraient pas gênés. Ils étaient pas très peureux, les enfants. Hein. Ils étaient, comme je vous dis, hein, ils avaient une vie assez rude. Je pense pas qu'ils seraient restés. Hein. Donc, il était bien préparé. Et Dieu lui avait certainement donné tout ce dont il avait besoin pour faire face sans se sentir abandonné. Ça, j'en suis sûre. Sinon, ça n'aurait pas marché. Et ça me fait penser que Dieu nous donne à nous tout ce qu'il nous faut pour répondre à l'appel qu'il nous donne. Que ce soit pour des missionnaires, des services particuliers ou simplement être un ambassadeur de Christ là où on est, dans notre famille, notre voisinage et notre travail. Il nous le donne. Donc, je réfléchis un petit peu aux gens que je connais. Vous avez tous connu les Friedman. Vous avez vu ses parents. Monsieur Mme Verneau, je pense que Monsieur Mme Dupuis les connaissait aussi. Ils passaient beaucoup dans les églises. C'était des missionnaires très connus dans nos églises. Bien, on a vu que ces gens-là arrivaient à... Quel âge ils avaient quand ils sont venus ici? 80 hein? On a vu qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire face. Vous avez vu comme ils étaient heureux, malgré tout ce qu'ils ont enduré. Et ils nous en ont raconté. Hein? Il y avait des choses un peu qui font peur. Surtout au moment des rébellions, hein? Ça a été terrible. Il a eu des obsèques nationales. Parce que les gens ont reconnu, non pas Monsieur Verneau, mais Christ en lui. Et Dieu lui avait donné cette capacité. Je pense à tous, hein, Richard Rajazon qui vient de nous visiter. Croyez pas que Dieu lui a donné de quoi faire face. Hein. Moi, je me verrais pas hein, dans les rues, ramasser des enfants dans l'état où ils sont. Mon médecin me disait, mais parfois on en trouve dans les poubelles des bébés. Et il me l'a confirmé. Il y a des périodes vraiment dures. Est-ce que Dieu lui a donné ce qu'il fallait pour le faire? Oui, ça se voit, hein. Vous l'avez vu comme moi, chez Richard, il y a cet amour, cette force. Ben, c'est pas tout à fait naturel, hein. Je crois que peut-être nous, on aurait déjà craqué depuis longtemps. Mais voilà, pourtant, il est plus tout jeune non plus. Hein. Voilà, je crois que Dieu donne ce qu'il ordonne. Et à Samuel, il lui a donné ce qu'il fallait. C'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est facile pour ces gens-là. Non, c'est pas facile. Mais Dieu leur donne la capacité, la force de tenir. Dieu nous donne la force et le secours dont on a besoin. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et « je puis tout », ça veut dire pas tout ce que j'ai envie, mais tout, ni tout ce que je veux, mais tout ce que Dieu me donne à faire. Et quand on est vraiment appelé dans quelque chose... D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on voit si on est appelé, hein, parce que on sent qu'on fait face. Oh, parfois, on a juste le nez hors de l'eau. Hein, nous, dans notre ministère, on l'a vu. Des moments où on a juste le nez là, il y a l'eau en dessous. Mais... on arrive, hein, et je crois que Dieu nous donne cette force. Alors franchement, je conseillerais à personne de faire ce qu'a fait Anne. Hein. Je pense qu'à notre époque, ce serait une catastrophe. Mais ce qui me parle ici, ce qui doit nous parler à nous, c'est l'esprit de sa démarche. C'est sûr qu'on va pas prendre notre enfant de 4 ou 5 ans et puis le consacrer à Dieu de cette manière, l'envoyer je ne sais où. Hélas, il y en a qui l'ont fait dans le passé. Hein. C'est vrai d'un sens que nos enfants nous appartiennent pas. Même les non-chrétiens le disent, hein, on n'a pas besoin d'être chrétien pour le savoir, nos enfants ne sont pas notre propriété. Et on le voit bien dès la naissance, le processus d'autonomie commence. Hein. Il fait de plus en plus de choses tout seul, il va attraper son biberon, puis il va sortir du lit, il va falloir remonter les barrières. Enfin, on voit que tout doucement, l'autonomie s'installe. Il va se débrouiller de plus en plus souvent seul, et il se débrouillera d'autant mieux qu'on l'a sevré correctement, qu'on l'a préparé correctement. Ah. Et je sais que j'en parlais souvent aussi bien à Sonit qu'à Cathy avant de partir. Apprends-lui à descendre un escalier à reculons. Parce que le jour, il va se trouver devant un escalier. Aïe, aïe, aïe. L'idée, c'est de tout faire pour qu'il puisse se débrouiller tout seul et qu'il évite les catastrophes. Et je crois que comme Anne, on est appelé à prendre soin des enfants en gardant présent à l'esprit que l'enfant n'est pas là pour notre plaisir. Et là, c'est une catastrophe en ce moment. Je regarde les catalogues de vêtements de bébés où on est dedans, nous, avec les petits-enfants, ou bien les magazines pour les enfants, etc. Et de plus en plus, on sent que l'enfant est là pour faire plaisir. À 40 ans, on se réveille, on se dit « Oh, mais au fait, je fais ma carrière, je n'ai pas eu d'enfant. » Voilà, ce serait bien quand même d'en avoir. Et de plus en plus souvent, c'est l'enfant plaisir. Et c'est dangereux, c'est pas un objet. Comme je dis vulgairement, parfois c'est pas un petit lapin. Même si on les appelle petits lapins, notre fierté ou notre joie, c'est pas le but de l'éducation des enfants. Mais le but, c'est de le préparer à être un être autonome. au service de Dieu et de la vocation que Dieu lui a donnée. Tout petit, j'ai toujours prié, ma mère était très insistante là-dessus, prier pour que l'enfant devienne ce que Dieu veut qu'il devienne. Pas ce que les parents veulent qu'il devienne, mais ce que Dieu veut qu'il devienne. Et on garde ça à l'esprit. Bien sûr, on a toujours beaucoup de joie et de plaisir à voir les enfants grandir, nous rendre l'affection. Ah bon, quand la petite est venue sur mes genoux tout à l'heure, ça fait plaisir, je ne vais pas dire le contraire. Hein. On est fiers de leur succès, on va les réconforter dans leurs échecs. Mais ce n'est pas notre but premier en tant que chrétien. C'est pas notre but premier. Notre but premier, c'est vraiment qu'ils servent le Seigneur et que dans toute leur vie, ils servent le Seigneur d'abord, que Dieu soit le premier dans leur vie et qu'ils puissent vraiment se débrouiller seuls avec leur Dieu. De plus en plus, quoi, on veut des enfants parfaits. On veut être fiers d'eux. On mise beaucoup sur leur esthétique, leur succès scolaire, la grande école, la réussite sociale. Et c'est, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, ceux qui font éducatrice, certainement oui. Bettelheim était un psychanalyste que j'aimais beaucoup, psychanalyste pour enfants, qui a dit que le problème de notre société, je crois qu'il est décédé maintenant, le problème de notre société, c'est qu'on veut des enfants parfaits en quelque sorte, et on en a un ou deux, et on veut vraiment, et encore plus souvent un, qui réalise tous nos désirs, tous nos vœux. On mise énormément dessus. Dit avant, les gens en avaient 10, 12, plus. Et ben, ils prenaient comme ça venait. Celui-là, il est doué pour ci, celui-là, il est doué pour ça, et voilà, on était plus cool, finalement. Mais maintenant, il dit, les gens misent tout sur un ou deux enfants. Toute la réussite, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit fort, soit intelligent, il faut qu'il soit le meilleur, etc. Et, du coup, ils sont forcément déçus, et ça fait toutes sortes de problèmes de société. Et, le but premier, comme celui de Anne, c'est qu'il serve le Seigneur toute sa vie. Alors, on va pas le mettre dans l'église, là, pour faire le ménage. Mais tout ce que je lui apprends, tout ce que je lui transmets, c'est pour qu'il soit un homme ou une femme debout. Pas une loque. Pas une loque victime de toutes les modes. Parce qu'elle passe les modes, puis elle change. Bon, ça, c'est difficile à suivre. Mais un homme ou une femme debout, capable de faire face à ce que Dieu lui demande et ce à quoi Dieu l'appelle. Et quand on voit les enfants, parfois quand j'ai les petits-enfants dans les bras, j'essaie de les endormir pour avoir la paix, mais souvent je prie et je dis, Seigneur, qu'ils deviennent vraiment ce que tu as prévu. Qu'ils deviennent vraiment ce que tu as prévu. Je prie pas forcément que ce soit le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, mais qu'ils deviennent ce que tu as prévu pour lui. Le dessein que tu as pour lui, qui rentre dedans, qui s'épanouisse, parce qu'on ne s'épanouit que quand on est dans le chemin de Dieu, tout le monde le sait. Avant toute autre chose, que ce soit un homme ou une femme capable de faire ce que Dieu lui demande, de répondre à ce à quoi Dieu l'appelle. Avant tout autre métier, il sera ambassadeur de Christ. Avant tout autre métier. Alors, ambassadeur de Christ, peut-être en tant que plombier, en tant qu'informaticien, patron, artiste, sportif. On a deux grandes sportives ici. Artiste, on a aussi des artistes ici. Mais ambassadeur de Christ avant tout. C'est-à-dire quoi, ambassadeur de Christ? Ça veut dire que je vais passer mon temps à donner des tracts? Ben non. Ambassadeur de Christ, par ma façon d'être, mon intégrité, ma bienveillance. Les gens, vous savez, le reconnaissent beaucoup. Et on a une chance énorme au XXIe siècle. C'est qu'il y a de moins en moins de gens bienveillants. Donc ça se remarque, les gens bienveillants. Ça se remarque un sportif qui ne prie pas pour que l'autre se casse la figure. Ah, c'est ce que tu nous as dit. Voilà. Ça se remarque. Ça se remarque, la bienveillance. Donc, on a un atout formidable en tant qu'ambassadeur de Christ. Ambassadeur de Christ aussi à la maison, avec les voisines, avec nos enfants, etc. Si j'enseigne certaines valeurs aux enfants, que ce soit la vérité, la droiture, la gentillesse, c'est pas pour qu'on me dise « quel enfant bien élevé ». Bon, ben, bien sûr, ça fait plaisir, hein, mais c'est pas le but de l'opération. Le but, c'est que dans sa vie de famille et dans sa vie professionnelle, il respecte les valeurs du royaume de Dieu. Et je sais que je suis fière des jeunes de cette église, parce que, pour une fois que je vous fais un compliment, profitez-en, parce que je vois que vous essayez autant que possible de respecter les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est pas toujours facile, dans votre boulot, dans votre école, mais c'est important. Vous savez, ça fait plaisir. Moi, je me souviens, elle est pas là, la petite Claire Stéphane, mais quand elle était jeune, elle m'apportait ses bulletins. Et elle avait du mal, Claire, elle ramait hein, pour bosser. Et j'étais tellement heureuse quand elle m'apportait ses bulletins et que je lisais. Claire fait tout ce qu'elle peut. Quelle élève consciencieuse. Oh, ça, c'est bien. C'est un bon ambassadeur de Christ. Je regardais pas si elle avait 18 et demi ou 10 et demi. Mais c'était, ah, oh, ça faisait tellement. Je dis, ah, ça, c'est un bon ambassadeur de Christ. Elle fait tout ce qu'elle peut. Et elle a bien réussi. Merci Seigneur. Donc, je prie pour que sa vie de famille, sa vie professionnelle respecte les valeurs du royaume de Dieu. Et si je lui transmets des bonnes et des saines habitudes, c'est pas pour mon bien-être familial seulement, mais c'est pour tout le reste de sa vie. Anne a transmis, évidemment c'était pas pour elle, hein, le pauvre, elle a transmis pour le Seigneur. Elle a dû lui donner des bonnes habitudes avant qu'il parte travailler au temple. Parce que vous savez, les petits-enfants au temple, d'après ce que j'ai lu, ils faisaient un peu le ménage, ils dépoussiéraient, ils frottaient les trucs qui devaient briller, ils faisaient des petits trucs, hein. Et puis apparemment, Samuel était affecté au service d'Élie. Donc vous imaginez un vieux monsieur, il avait entre 70, 80, plutôt 80, d'ailleurs quand il entend la voix de Dieu, je crois qu'il avait autour de 80. C'est, va me chercher ça, prends-moi ça, parce qu'il voulait pas se lever, il était fatigué, donc il devait courir, aller pour lui chercher ça. Je veux un verre d'eau, allez hop, il courait lui chercher son eau. C'était ça, hein, le service de Samuel. Il a fallu qu'il ait des bonnes valeurs pour accepter d'être comme ça, le petit garçon de service. Mais le but, c'est pas que mon enfant soit à mon service, c'est pas que mon bien-être familial qui compte, mais c'est pour tout le reste de sa vie. Et entre autres, que son conjoint soit honoré. Alors là, j'ai beaucoup apprécié ma belle-mère. Tout au début où je l'ai connue, elle m'a expliqué qu'elle avait appris à ses trois garçons à faire la cuisine, à faire le ménage. Non pas tellement parce que elle voulait qu'ils sachent le faire, ils le faisaient pas régulièrement chez elle, mais elle dit, on sait jamais si un jour leur femme est malade ou quand elle attend un bébé ou voilà, quand elle pourra pas, au moins ils pourront aider. Waouh! Et ça, c'était quand même une éducation juste d'après-guerre, hein, des années 50. Il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais elle pensait déjà au bien-être du conjoint. Et c'est précieux. Et est-ce qu'on y pense quand on élève nos enfants? Moi, je me suis dit, hein, est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on les élève dans cette optique qu'ils soient une bénédiction pour son conjoint? Je crois que maintenant, c'est triste à dire, c'est pas vrai pour tous les divorces, mais combien de divorces seraient évités? Si les parents avaient élevé leurs enfants dans cette optique, qu'est-ce que tu vas apporter à ton conjoint et non pas qu'est-ce que tu vas lui prendre? Je sais qu'à l'école biblique, à CFNI, c'est ce qu'on enseigne aux jeunes, c'est ce que Samuel et Florence ont appris. Réfléchissez à ce que vous allez apporter, non pas ce que vous allez prendre dans le mariage. Qu'est-ce que j'apporte à mon partenaire et pas qu'est-ce que j'attends de lui? Ça, c'est l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Et c'était vraiment l'esprit dans lequel travaillait Anne. Et on peut aussi travailler dans cet esprit. Très tôt, évidemment, on les encourage à développer une relation personnelle avec Jésus. Pas parce que c'est si mignon à cet âge-là. Non. Mais parce que je sais que dans toute sa vie, Dieu sera son refuge et sa forteresse. Merci Charles pour le verset que tu as mis en bas. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah tiens, on croyait que tu es au courant. Dieu sera son refuge et sa forteresse. Donc, je l'habitue tout petit à prier pour lui-même. Parce que je sais qu'il va avoir des difficultés dans sa vie et il en aura bien besoin. Et comme je dis toujours, il faut pas qu'il vive sur la carte de crédit spirituelle de ses parents. Hein? Il faut pas l'habituer à ça. Oh, ben, maman va prier pour moi. Je me souviens d'un jeune homme à qui je disais, mais prie, prie, prie. Ah, ben, maman, elle prie pour ça. Non. Toi, là. Tu pries. Prie pour ta femme. Ça n'allait pas fort. Prie. Et il m'a bien répondu. Ah, maman, elle prie tous les jours pour ça. C'était rageant. Parce que, on peut pas, les enfants peuvent pas vivre sur notre carte de crédit spirituel. Très tôt, faut qu'ils aient la leur. Quand il y a des problèmes à l'école, quand il y a des problèmes avec les amis, etc., quand il y a des décisions à prendre, faut qu'ils aient leur carte de crédit à eux. Hein? Et c'est aussi ça, c'est ça qu'elle a fait Anne. Elle l'a élevé dans cette optique, sinon il aurait pas tenu au temple à 4-5 ans, vous imaginez, pauvre gosse. Donc en résumé, comme Anne, je veux élever mes enfants pour qu'ils entrent dans le plan de Dieu pour leur vie. Bon, maintenant, moi, c'est les petits-enfants. Celui où l'enfant va prospérer, s'épanouir, se construire et à son tour construire les autres. Parce que voilà, c'est en donnant aussi qu'on reçoit. Je suis sûre que ici, on veut tous que nos enfants deviennent des Samuel, dans le domaine où Dieu les appellera. On choisit pas pour eux, mais qu'ils soient en bénédiction auprès de leurs amis. Vous savez, qu'est-ce que ça me fait plaisir quand les jeunes ici me disent, bah, tiens, j'ai pu encourager tel ami qui était déprimé. Tiens, il faut prier pour tel collègue qui va pas bien. Je me dis, waouh, ils sont en bénédiction auprès de leurs amis, auprès de leurs profs, de leurs collègues de travail, leurs conjoints, et puis à leur tour, leurs enfants. Que ce soit des gens qui entrent dans la vocation que Dieu leur a donnée, qui aident les autres aussi à entrer dans leur vocation. Pas dans la rivalité, hein, mais aider les autres à rentrer dans la vocation. En un mot, qui deviennent des hommes et des femmes de Dieu. C'est ça que je veux dire quand je vous dis, je prie pour que mes petits-enfants soient des hommes et des femmes de Dieu. Je prie pour que les miens le restent, mais que les petits le deviennent. Si on les élève qu'en pensant à notre bien-être et à notre plaisir, on va en faire des malheureux. Moi, j'ai eu des amis dans le monde. Tout ce qui comptait, c'était que les enfants soient disciplinés, soient sages, rangent leur chambre, réussissent les études, etc. Parce que ils pouvaient se vanter d'avoir des enfants modèles. C'est bien, chouette. Mais on en fait des enfants très malheureux. Si on pense qu'à leur bien-être et à leur plaisir, alors ils vont être malheureux aussi, mais en plus ils seront égoïstes. Donc là aussi, on se plante. Le but, c'est vraiment de les élever pour qu'ils servent le Seigneur. Parce que le plan de Dieu pour l'être humain, c'est de trouver son vrai bonheur en construisant les autres et en continuant à se construire soi-même avec l'aide de Dieu. Donc, encourageons-les, nos tout-petits, c'est le mois de la famille, hein, à prier pour eux-mêmes et à prier aussi pour les autres, à aussi aider les autres à se décentrer de soi pour penser aussi aux autres. C'est pas facile hein, quand on est petit, quand on est grand non plus d'ailleurs. Obéir à Dieu en premier. Et là, je fais une petite aparté parce que souvent on dit que les enfants de pasteurs tournent mal. Et c'est malheureusement souvent vrai. Et la raison est assez simple. Souvent, les pasteurs exigent que leurs enfants soient parfaits. Alors, il faut faire ceci, il faut faire cela, parce qu'il faut être un exemple pour les autres. Mais eux, ils ont rien demandé. Ils ont pas demandé d'être un exemple pour les autres. Ça les intéresse absolument pas. Et c'est une charge, et c'est un fardeau qu'on leur met sur les épaules de force. Du coup, première occasion, la cocotte minute explose, et puis ils font n'importe quoi. Et d'ailleurs, vous remarquerez, on en parle plus maintenant, je crois que c'est les brigades rouges, en Allemagne. Il y avait sur les 5 terroristes, je crois qu'il y avait 2 ou 3 enfants de pasteurs. C'est aïe, 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 aïe. Parce que la charge est très forte, le poids qu'on met sur eux. Et ça, c'est une erreur. Anne n'a pas préparé son fils dans cet esprit. Elle n'a pas préparé dans cet esprit. Sinon, il serait jamais devenu le Samuel qu'on connaît. Jamais. L'idée, et je me souviens, Jack Efford l'a dit, donc j'étais contente parce que c'est toujours ce que je pressentais, mais j'osais pas trop le dire, mais apparemment, c'est effectivement ce qui marche, c'est que les enfants soient très tôt associés à notre ministère. Alors que soit pasteur ou qu'on soit autre chose dans l'église, c'est la même chose. Parce que je suis maîtrise d'école dimanche, alors tu dois être impeccable, tu dois pas bouger, tu dois pas parler, tu dois pas... Ouf, la chape. Et c'est beaucoup plus simple de dire, bah oui, parce que, bon, oui, on fait ça dans l'église, mais voilà, toi, tu le fais aussi avec moi, tu participes avec moi, tu prêtes ta maman, tu prêtes ton papa, c'est gentil. Et puis, on se conduit comme ça parce que ça plaît au Seigneur. Pas pour plaire aux gens, pas pour donner l'exemple d'un enfant modèle, ça n'existe pas, mais parce que tu veux plaire au Seigneur, tu veux faire plaisir au Seigneur. Et parce que si tu fais du bruit, eh bien, les gens qui viennent pour la première fois entendre l'évangile, ben, ils pourront pas entendre. Ce serait dommage. Ça, les enfants le comprennent, à 3-4 ans, ils le comprennent. Hein? Et c'est beaucoup moins lourd pour eux parce qu'il y a une motivation. Je le fais pour le Seigneur. Pas parce que ma maman m'y oblige, parce que je dois être un modèle, parce que je dois être parfait, et puis, oh, j'en ai marre. Et ça passe. Et je crois que c'est important de voir ça, quoi qu'on fasse, que les enfants soient pas instrumentalisés pour être des modèles ou des ceci qui nous rapportent un peu du, hein. Non. Parce que on les habitue tout petits à se positionner devant le Seigneur. C'est important pour le Seigneur. C'est important que ceci, que cela. Et ils le comprennent très bien et ils s'associent volontiers, hein. Moi, je sais que mes enfants ont toujours énormément de patience. Quand on parlait ou quand je témoignais à la sortie de l'école, parfois des amis ou des parents d'élèves, et je me disais, oh là là, j'abuse, oh là 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 là, Je me culpabilisais un peu, mais c'était gentil parce que je leur expliquais après. Tu vois, cette femme, elle est dans la détresse, elle vit ceci, elle vit cela. Bon, je n'ai pas trop de détails, mais c'était important que je puisse prier pour elle, que je lui parle du Seigneur, hein. Et merci d'avoir été patient. Et c'est plus facile à supporter que rester là sans bouger pour être un bon modèle. Pauvre gamin. Voilà, donc pensons à tout ça. Anne a vraiment préparé Samuel dans un bon esprit. Et j'apprécie ça. Et quand on voit la vie de Samuel après, on est ravis, quoi. Voilà, on encourage les enfants à servir Dieu et les autres par amour pour Dieu et pour les autres. Du coup, ils partagent aussi les moments gratifiants. Hein? Quand j'avais parlé ou j'avais témoigné à quelqu'un, et Evelyne n'est pas là, mais je passais pas mal de temps avec Evelyne à cette époque. Je disais, oui, ben, tu sais, elle a prié avec moi, elle a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Ah, ils étaient contents, les enfants. Ils partageaient ces choses. Alors, je suis pas sûre qu'ils s'en souviennent, surtout pas Olivier, il a une mémoire courte, mais Florence, je pense, s'en souviendrait peut-être plus facilement, ou Samuel, mais voilà, c'est, on partage. Et du coup, les moments gratifiants, ils sont partagés aussi avec nous. Voilà. Donc, je vous encourage à vivre dans cette optique. Parce que nos enfants sont tous appelés à vivre dans la maison de Dieu. Pas forcément comme Samuel, mais comme des ambassadeurs de Christ, partout où ils seront. Donc, préparons-les, sevrons-les, surtout de notre carte de crédit spirituel. Faut les sevrer. Alors, la prière d'Anne, on va pas s'y attarder très longtemps parce que on pourrait faire des tas de messages et moi, je suis pas théologienne, donc je reste dans mon optique de la famille. Mais il y a quelques points qu'on va remarquer dans la prière d'Anne. Je la lis rapidement. Anne pria et elle dit, par le Seigneur, mon cœur exulte. Par le Seigneur, ma corne s'élève. Alors, corne, dans l'Ancien Testament, c'est la force. Voilà, c'est le symbole de force. Ma bouche s'ouvre toute grande contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y a pas d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Voyez, c'est Charles a écrit le verset en bas. Ne multipliez pas les paroles hautaines, qu'aucune insolente ne sorte de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des guerriers est brisé, mais ceux qui trébuchaient se saignent de vaillance. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, ceux qui étaient affamés ont du répit. La femme stérile accouche cette fois, et celle qui avait beaucoup de fils dépérit. Le Seigneur fait mourir, il fait vivre, il fait descendre ces jours des morts, il en fait remonter. C'est le Seigneur qui rend pauvre ou riche, c'est lui qui abaisse et qui élève. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il élève le pauvre, pour le faire asseoir avec les nobles. Et ça, on l'a vu souvent dans la Bible, hein. Joseph, Daniel. Il leur donne pour patrimoine un trône glorieux, car c'est au Seigneur qu'appartiennent les piliers de la terre. C'est sur elle qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses fidèles. Mais les méchants se perdent dans les ténèbres. J'aime beaucoup ce verset. Les méchants se perdent dans les ténèbres. Et on le voit souvent dans la vie. Les méchants se perdent. À force de vivre dans les ténèbres, ils ne se retrouvent plus. C'est tout à fait vrai. Et l'homme ne triomphera pas par la force. Ah, on a l'impression parfois, hein, que les gens, par la force, ils peuvent arriver à tout faire. Ça dure un temps. Ceux qui cherchent querelle au Seigneur seront brisés. Contre eux, dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera les extrémités de la terre. Il donnera de la puissance à son roi. Là, c'est prophétique, hein, puisqu'il n'y avait pas encore de roi. Il élèvera la corne de l'homme qui a reçu son onction. Et puis, là, ça se termine ici. Il dit, Elkana rentra chez lui à Rama. Quant au garçon, il officiait pour le service auprès d'Élie, le prêtre. Donc, vous voyez, il était serviteur d'Élie. La prière d'Anne, quelques petits points quand même, elle a certainement inspiré le cantique de Marie. Les jeunes filles juives apprenaient par cœur ce genre de cantique, ce genre de prière. Le Magnificat, vous pourrez le lire dans Luc 1, verset 46, à partir de verset 46. C'est une prière de louange, d'adoration et de reconnaissance, on se met à sa place. Mais quand même, je trouve qu'il fallait le faire quand on vient de déposer son enfant et qu'on le reverra pas avant plusieurs mois. On pourrait passer beaucoup de temps sur ce cantique, mais on retiendra le fait qu'elle fait tout le temps le lien entre la souveraineté de Dieu sur l'ensemble du cosmos et sur l'histoire humaine, et sur sa miséricorde en faveur des gens les plus faibles et les plus opprimés. Donc on a un Dieu qui est incroyablement paradoxal quelque part, créateur du monde, et quand on regarde les étoiles le soir, quand on regarde un petit peu ce que les scientifiques maintenant nous passent comme film sur le cosmos, sur les choses très très loin de nous, hein, on se dit « Waouh !» Et il s'occupe de moi. C'est quand même formidable, hein, ce contraste. Et ça me fait penser à ce cantique que vous avez peut-être chanté, en tout cas les plus anciens le connaissent. Comment un Dieu si grand a pu penser à moi? Comment un Dieu si grand a pu penser à moi? Avec tout ce qu'il a créé. Je regardais les nouvelles sur la BBC, là, sur mon ordinateur, et puis ils sont en train d'expliquer que on va prélever, je ne sais quoi, je rentre pas dans les détails parce que j'y comprends rien, mais on va prélever des choses à l'intérieur de l'œil, de la rétine, je crois, pour pouvoir redonner une meilleure vue à des gens qui sont totalement aveugles. Et alors, il y a une photo de la rétine, évidemment, bien agrandie, et on regarde ça, on se dit, mais c'est tellement compliqué, et on veut nous faire croire que tout ça, c'est fait par hasard. Regardez simplement, si vous avez l'occasion de voir cette photo, c'est ahurissant tout ce qu'il y a dans un œil. Et je crois que c'était la rétine, tous ces petits bâtonnets. Alors, ils prélèvent ces fameux petits cônes qui doivent être archi-microscopiques et ils les réimplantent dans notre yeux. C'est merveilleux ce que Dieu permet. Hein. D'ailleurs, la Bible dit, hein, elle soulève le voile. Dieu soulève le voile de la connaissance dans les derniers temps. Et il soulève le voile. Et tout ce qu'on trouve à dire, c'est que ça s'est fait par hasard. C'est un peu grossier quand même, parce que scientifiquement, ça peut pas tellement... Ça tient pas debout, mais bon. Mais c'est beau à voir, hein, ce que Dieu a créé. Et penser qu'avec toute cette science, toutes ces belles choses qu'il fait, ben, il pense à moi. À moi qui suis rien, quoi. Hein, quand on est en avion, vous voyez la taille des hommes. On les voit même plus, d'ailleurs. Il va à une certaine hauteur. Le Dieu de la Bible, sa grandeur, sa puissance de Dieu créateur ne l'empêche pas de penser aux plus petits, aux plus faibles et aux plus méprisés. Ça, c'est génial. Nous, on a vite fait, hein, de mettre de côté. Même en tant que chrétien, on a honte parfois. Oh, on dit qu'on fait pas exception de personne, mais bon, si on veut être honnête, hein, parfois on le fait, parce que c'est naturel chez l'être humain. Et j'aime beaucoup ce psaume qui dit « Je suis petit et méprisé ». Bon, ça fait pas grand-chose, hein, mais le Seigneur pense à moi. Hein, quand vous vous sentez un peu mal, vous sentez la dépression qui vient là, redites-vous ce verset « Je suis petit et méprisé, au boulot, il me pompe, tiens Laurence, hein ?» Mais le Seigneur pense à moi. Et c'est pas n'importe qui le Seigneur. Le Créateur du monde, il pense à moi. Alors, le cantique de Marie est un petit peu plus doux, plus axé sur la miséricorde. On est dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance qui s'approche. Celui d'Anne est un petit peu plus axé sur la justice. Mais vous savez que Dieu, l'amour de Dieu, hein, c'est comme une pièce de monnaie. La justice d'un côté, l'amour de l'autre, sur la même pièce. Dieu est présenté comme un rocher, une source de sécurité. C'est pas par hasard que Charles a mis ce verset en bas. Mais surtout, il est celui qui renverse les situations. Alors, rappelez-vous Joseph. C'est ce qu'elle dit là, les situations renversées. Joseph, esclave, qui devient premier ministre quasiment. Daniel, un prisonnier de guerre, hein, qui devient conseiller de trois rois, Nebuchadnezzar, Belshazzar et Darius, ouais. Trois rois. À chaque fois, ils ont voulu le tuer, ils n'ont pas réussi. Esther, la petite immigrée juive, qui devient reine. On veut la tuer. Et en fait, situation retournée aussi. Les pharisiens, avec Jésus, combien de fois ils sont venus voir Jésus pour le coincer? Puis ils étaient sûrs de gagner. Là, ils ont fait force avec la femme adultère quand même. Là, ils pouvaient pas s'en sortir. Là, Jésus était extraordinaire, comme il est toujours. Parce qu'il pouvait pas s'en sortir. S'il disait, lapidez-la, t'as vu hein, tout ce que tu nous racontes sur l'amour de Dieu. Et puis s'il disait, laissez-la partir, c'est comme ça la loi de Moïse, bravo pour un rabbi. Il pouvait pas s'en sortir. Mais il connaît le cœur de l'homme. Et vous avez vu comment? Il les a tous coincés. Il retourne les situations. Hein. C'est La Fontaine hein, qui disait, tel est prix qu'il croyait prendre. Dans la Bible, on voit ça très souvent. Et dans votre situation de travail ou de voisinage ou autre, s'il y a des gens qui vous font du mal, qui essaient de vous persécuter, etc., vous allez constater, je crois que Laurence commence à le constater aussi, que ceux qui veulent vous faire du mal, ça se retourne contre eux. Même si vous bougez pas, même si vous faites rien, et surtout si vous faites rien et si vous continuez à prier, c'est l'inverse. Ils veulent vous mettre dehors du boulot, c'est vous qui allez rester, c'est l'autre qui va partir. Combien de fois ça arrive? Si on reste dans la prière. Et vous êtes peut-être dans une situation de ce genre. Alors, relisez le cantique d'Anne, relisez le cantique de Marie. Dieu est celui qui retourne les situations. Quelquefois, ça prend un peu de temps et Dieu met notre patience à l'épreuve. Mais il le fait. Alors, je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour pas être trop tard. Donc, je vais juste vous mettre sur la piste pour la prochaine fois. À partir du verset 11, on va assister à une opposition qui se voit dans le texte, très très marquée, entre Samuel et les fils d'Élie. Vous allez voir, vous allez avoir comme un refrain. Quant au garçon, il officiait pour le Seigneur auprès d'Élie le prêtre. Et après, vous avez un paragraphe comme ça sur les péchés des fils d'Élie. Puis de nouveau, le jeune Samuel continuait à grandir. Et vous avez un peu comme dans les films, alors moi je m'y connais pas trop en cinéma, mais les jeunes s'y connaissent certainement plus que moi. Je sais pas comment s'appelle ce procédé, où on fait paraître en parallèle deux histoires. Hein, on a quelques séquences sur une histoire, et puis une séquence sur une autre. Et puis de nouveau, on prend la première et une autre. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce texte. Pour accentuer, alors il y a juste un petit mot pour Samuel. Il grandissait, il servait le Seigneur. Et puis heureux, faut voir tout ce qu'il faisait. Et puis Samuel, pendant ce temps-là, grandissait. Donc on a, et là ça doit s'étendre sur peut-être 15 ans. Ça prend deux chapitres dans la Bible, mais faut réaliser que ça prend du temps dans la réalité. Hein. Lui, il grandissait sans faire de bruit. Et puis à côté, le malheur, le mal, le vice grandissait. Et c'est encourageant ce passage pour nous, parce qu'on voit dans notre société comment le mal grandit. Hein, quand même, on arrive à des extrémités incroyables, on confond miséricorde et laisser aller, enfin bon. Et à côté de ça, Dieu à côté prépare quelque chose. Alors je sais pas ce qu'il prépare, quel est le petit Samuel qu'il est en train de faire grandir. Pas certainement pas un personnage, je pense pas que ce soit un homme, mais peut-être le corps de Christ, peut-être. Voilà, qui grandit, qui sert le Seigneur et qui sera capable d'apporter des bonnes choses à la société. Hein. Et que ce soit un encouragement pour nous, on reprendra là la prochaine fois. Dieu renverse les situations. Et quand les situations vont mal, il est en train de préparer une solution. Alors que ce soit dans nos familles, avec les enfants, au travail, il prépare des solutions, il renverse les situations, il est notre rocher, notre forteresse. Donc si aujourd'hui vous avez des fardeaux, on en a tous, des sujets de prière qui sont pas encore exaucés, des choses qu'on comprend pas, des souffrances qu'on a enfouies, Dieu retourne les situations. Relisez le cantique d'Anne et puis auprès de nos enfants aussi, gardons toujours à l'esprit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Nos enfants sont nos ambassadeurs associés. On travaille ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu et c'est notre priorité. Ambassadeur de Christ et mère au foyer, ambassadeur de Christ et cadre, ambassadeur de Christ et plombier ou autre, artiste ou musicien, etc. Mais ambassadeur de Christ d'abord. Et la vie, je vous assure, est beaucoup plus agréable quand on est d'abord ambassadeur de Christ, même dans le sport. Hein. Et vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous aide, parce qu'on est humain, on est limité, puis parfois on est des piètres ambassadeurs. Je sais, tous. Alors, il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre, hein, de ce domaine. Parfois, on se dit, oh, purée, qu'est-ce que j'ai, oh là là, Seigneur, je suis désolée. Quelle image j'ai donnée de toi? Oh, aïe, aïe, aïe. Mais bon, Dieu nous pardonne, hein. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et on a sa miséricorde. Et que le Seigneur nous bénisse dans notre boulot d'ambassadeur auprès de nos enfants, auprès de notre entourage, et qui renouvelle notre foi pour tous nos sujets de prière aussi. Amen.